le soir, repensons notre quotidien.
Bonjour, vous écoutez À propos, le podcast d'actualité du journal Le Soir. Tous les jours, c'est l'expertise de notre rédaction dans vos oreilles. Le précompte immobilier, la taxe que vous payez en tant que propriétaire pourrait changer à Bruxelles, on vous explique dans un instant. Mais d'abord, comment se sentent les médecins du pays? Que pensent-ils de leurs conditions de travail? Je m'appelle Pierre Fagnard. À propos, voici l'actualité, comme vous l'entendez.
Grand angle.
Comment les médecins considèrent-ils leurs conditions de travail? Comment qualifier le moral des généralistes et des spécialistes? Que pensent-ils des politiques en charge de leur matière? Le journal du médecin publie ce vendredi une enquête sur l'état du secteur. Éric Burgraff, chef du pôle société, a obtenu les résultats de cette enquête. Il décrypte avec nous. Bonjour Éric.
Bonjour Pierre.
Une question de contexte pour commencer. C'est quoi cette enquête? Le journal du médecin a voulu savoir comment se sentaient les docteurs du pays?
Oui, donc le journal du médecin, rappelons-le, c'est un magazine spécialisé pour les professionnels de la santé, donc le médecin généraliste spécialiste de manière générale. Et il a voulu interroger ses lecteurs, ses membres, sur toute une série de choses, sachant qu'on est quelque part dans un moment clé, avec une série de sujets plutôt chauds. On parle notamment de l'accord médico-mut, du New Deal, on va expliquer ce que c'est après, du refinancement hospitalier, des élections qui arrivent, donc le média spécialisé a voulu prendre un peu le pouls de la profession dans ce contexte très particulier en fait.
Avant d'entrer dans les chiffres, il faut, vous le disiez, détailler un concept ou deux. Le journal du médecin a donc interrogé ses lecteurs sur le New Deal. Vous pouvez nous réexpliquer en quoi consiste cette réforme de la médecine de première ligne?
Donc c'est une nouvelle façon de finalement d'organiser et surtout de rémunérer les professionnels de la première ligne, donc les médecins généralistes en fait. Les constats à la base, c'est qu'il y a aujourd'hui trop peu de médecins généralistes dans toute une série de régions et pas qu'à la campagne, dans certains coins de Bruxelles par exemple, en pleine ville on manque, il y a aussi pénurie de médecins. Les médecins disent qu'ils ont trop peu de soutien au sein des cabinets, que la population, ce qui est très vrai, est vieillissante, avec notamment une série de maladies chroniques qui s'installent. Les médecins aussi estiment qu'il est temps de rééquilibrer la balance entre la vie professionnelle et la vie privée. Le médecin qui faisait 60-70 heures par semaine, ça existe encore, mais ceux-là sont de plus en plus vieux et donc il y en a de moins en moins. Le jeune médecin aujourd'hui souhaite, comme tout le monde, pouvoir s'occuper de ses enfants en fin de journée et d'avoir des week-ends un peu light, ce qui est tout à fait logique. Et donc la force de travail, même à nombre de médecins égal, la force de travail, ce serait de toute façon un peu réduite puisqu'ils font moins d'heures pour des raisons tout à fait légitimes. Donc tout ce contexte est là et fait qu'à un moment donné, le ministre, face à la demande du monde médical, a apporté une réponse qui est un financement différent. Il propose maintenant, c'est pas obligatoire, mais au cabinet, d'être financé de trois manières. Le financement à l'acte, on va voir son médecin, on lui paye sa consultation, ce qui se fait le plus souvent aujourd'hui. Mais à ce financement à l'acte s'ajoute aussi un financement au forfait pour certaines maladies, mais aussi un financement par prime, par exemple, lorsqu'on engage du personnel dans son cabinet, genre personnel infirmier, genre personnel administratif, dans certaines circonstances, on peut avoir droit à une prime fédérale. Donc c'est le nouveau mode de financement qui constitue le New Deal. Les médecins vont y adhérer ou pas dans les prochains.
Et d'après l'enquête du journal du médecin, les répondants, ils ont confiance, ils sont séduits par ce New Deal?
Bon, c'est pas terrible en fait. De manière globale, 15% des répondants, j'ai oublié de préciser tout à l'heure que les répondants sont 1 million de médecins généralistes et spécialistes, 15% de cet ensemble considèrent que c'est une bonne solution. Précisons qu'il y en a un peu plus du côté des généralistes, qui me paraît logique, et un peu moins du côté des spécialistes. Mais on n'est pas devant un engouement fou face à cette situation. Après, il faut aussi l'expliquer sur le terrain, il faut voir comment elle va s'implémenter. Il y a peut-être aussi un peu de méfiance et probablement aussi beaucoup de gens qui sont indécis.
Si on demande aux médecins s'ils ont confiance en leur gouvernement régional ou en leur ministre de la Santé, là on se rend compte aussi dans cette enquête du journal du médecin que les résultats sont extrêmement tranchés.
On peut simplement dire que la confiance est plutôt en berne en fait, notamment par exemple face au gouvernement flamand, parce qu'il y a des ministres de la Santé un peu partout dans ce pays, et le ministre fédéral, M. Van den Broek, et puis il y a un ministre au niveau régional flamand, régional bruxellois, au niveau région wallonne. Le gouvernement flamand s'en sort avec une note de 4,8/10, c'est pas si mal que ça, même c'est moins de la moitié. Le gouvernement fédéral, par contre, lui s'en sort avec un 4/10, et les gouvernements wallons et bruxellois doivent se contenter en fait d'un 2,9/10, c'est assez peu, et c'est ce qu'on pourrait appeler une claque politique. Si on regarde un peu aussi les scores personnels des ministres concernés, mais c'est pas beaucoup mieux. C'est un peu mieux pour la flamande Hildegard-Wiets, qui la CDNP qui a un score de 4,5 sur 10, assez conforme à ce que son gouvernement a. Pour à Bruxelles, mais c'est 2,6 pour Alain Marron, c'est pas beaucoup. En Wallonie, Christy Morial fait à peine mieux avec 3,1 sur 10. Et puis, celui qui compte le plus, le ministre de la Santé fédérale, Frank Vandenbroek, ben, il s'en va avec un bulletin de 2,8 sur 10. C'est quand même... On ne va pas dire que c'est un zéro pointé, mais on n'en est pas beaucoup loin.
L'enquête évoque aussi l'accord médico-mutualiste 2024-2025, l'accord médico-mut. Là aussi, avant d'entrer dans le sentiment, dans ce que les médecins en pensent, vous pouvez nous rappeler de quoi il s'agit ?
Donc en fait, il faut rappeler que cet accord c'est fait partie de la manière dont on gère la sécu aujourd'hui et particulièrement les soins de santé, une manière qui se fait dans la concertation la plus totale. Et donc cet accord, même s'il se fait souvent à l'arraché, c'est une grande discussion entre le monde médical, c'est-à-dire les syndicats médicaux d'une part, et d'autre part les organismes assureurs, c'est-à-dire les mutuelles essentiellement. Tous ces gens se mettent d'accord pour travailler ensemble un budget de quasiment 12 milliards d'euros et le répartir entre différentes cases des soins de santé. C'est un grand contrat en fait qui fixe fondamentalement les tarifs. Combien un médecin généraliste peut me demander au maximum pour une consultation, combien il peut me demander pour une suture, combien mon dermatologue peut me demander pour tel type d'acte. Même chose pour l'oncologue et des tas d'autres spécialités. Et on fixe évidemment dans cet accord la part que le patient doit supporter.
Et manifestement, ce nouvel accord, il ne séduit pas tellement les médecins, en tout cas de nouveau, d'après les résultats publiés par le Journal du médecin.
Il faut simplement rappeler que les précédents accords, il y en a généralement tous les 2 ans, amène souvent un taux de conventionnement, c'est-à-dire les médecins qui disent « je me conventionne, j'accepte cet accord et j'accepte de pratiquer les tarifs maximum qui me sont proposés », qui varient autour de 80, 85, 90%, c'est pas mal du tout. Le reste étant des médecins, souvent les spécialistes, qui décident d'être déconventionnés, donc de ne pas respecter cet accord et de demander le tarif qu'ils souhaitent. Toujours plus élevé que le tarif officiel, évidemment, c'est rarement moins. Donc, 80% des médecins l'année dernière étaient favorables à cet accord. Dans l'enquête qu'on a aujourd'hui, une photographie aujourd'hui, ce n'est pas encore le chiffre officiel, l'enquête nous montre que seulement 48% ont envie de signer. C'est quand même très peu, c'est pratiquement la moitié des années précédentes. Je ne peux pas dire aujourd'hui si c'est un coup de gueule ou si ce sera la réalité. Manifestement, c'est en tout cas une image de ce qui se trame dans la profession en ce moment.
Juste pour terminer, concrètement, pour vous, pour moi, ça veut dire quoi si autant de médecins ne souscrivent pas à cet accord médico-mut?
Ce qui va changer, c'est simplement pour notre portefeuille, puisque le médecin qui vous demandait, par exemple, un tarif officiel de 42 euros, il se déconventionne, il ne conventionne plus, donc pourra demander peut-être 50 ou 58 ou 60, comme ça se fait déjà aujourd'hui. Ce qui va changer, c'est que beaucoup plus de médecins pourraient à un moment donné prendre la liberté de pratiquer des tarifs supplémentaires.
Merci beaucoup, Eric.
De rien, avec plaisir.
À Bruxelles, une petite révolution se prépare en matière de fiscalité. Si vous êtes propriétaire, votre commune pourrait décider de vous taxer en fonction du quartier où vous vivez. C'est ce qu'on appelle un précompte immobilier différencié. Les ministres des pouvoirs locaux et du budget, Bernard Clerfailly et Sven Gatz, ont présenté une nouvelle procédure au reste du gouvernement bruxellois. Maxime Biermet, le chef du pôle économie, nous explique.
Bonjour Maxime.
Bonjour Pierre.
On va donc parler précompte immobilier différencié, mais on va faire les choses dans l'ordre. Avant de nous expliquer ce que c'est le différencier, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'on entend par précompte immobilier ?
Oui, je crois que si vous êtes propriétaire à Bruxelles et même ailleurs dans ce pays, vous savez que chaque année, on reçoit une facture parce qu'on est propriétaire de son bien, d'un bien immobilier. Le fait d'avoir un appartement, une maison, fait que vous devez payer un impôt chaque année.
Là, avec ce précompte immobilier différencié, l'idée, c'est de demander des taxes différentes au sein d'une même commune. Mais en fonction de quoi ? En fonction du quartier où on habite ? En fonction de l'affectation du bien ?
Oui, c'est ce qu'on pourrait imaginer à l'avenir. Alors, on n'en est vraiment pas là, mais on pourrait imaginer un jour que sur la Grand Place, on paye un peu moins qu'à l'autre bout de Bruxelles. On sait que c'est très étendu, la ville de Bruxelles par exemple, avec des quartiers très riches et très pauvres. Mais ici, la réflexion, c'est surtout comment faire pour moderniser la manière dont on prélève cet impôt, le précompte immobilier, puisqu'on sait qu'il est basé sur le revenu cadastral qui date de 1975, qui a indexé, mais en fait qui n'a jamais vraiment été revu fondamentalement et qui est donc source d'inégalité, puisque dans certains quartiers qu'on considère aujourd'hui comme super hype, en fait, le le revenu cadastral est assez bas parce que en 1975, il n'était pas du tout hype.
Pourquoi est-ce que le gouvernement régional a décidé de prendre cette décision? C'est quoi le but? C'est une question budgétaire?
Alors, les deux ministres qu'on interroge dans le journal et qui nous proposent leur réforme d'ordonnance, à savoir Bernard Clerfailly et Sven Gatz, qui sont respectivement ministres des pouvoirs locaux et des finances, nous expliquent que pas du tout. Ils insistent très fort parce qu'évidemment, c'est un sujet qui fait peur. Est-ce qu'on va encore m'augmenter quelque chose qui coûte déjà très cher? Alors, ils disent non, pas du tout. Le but numéro un, selon eux, c'est plutôt la simplification administrative parce qu'en fait, cet impôt, il est régional. Et dedans, il y a 1,25% qui va à la région. C'est comme ça qu'on commence à calculer. Ensuite, on ajoute le niveau provincial. En tout cas, en Wallonie et à Bruxelles, il n'y a pas une province, mais il y a ce niveau quand même. Et puis, le niveau communal. Et là, les communes prélèvent ce qu'on appelle les centimes additionnels. Elles peuvent donc vraiment augmenter en votant via le conseil communal cette somme-là. Et c'est pour ça qu'on arrive à des montants aussi hauts. C'est via les communes parce qu'elles en ont besoin. 58% des recettes fiscales des communes à Bruxelles vient du précompte immobilier. Donc, c'est énorme. C'est presque 1 milliard d'euros. Donc, comme on sait que les communes sont un peu dans le rouge, même la plupart, c'est indispensable. Et donc, elles ont tendance à augmenter toujours ces centimes additionnels, à multiplier les taxes aussi, les taxes sur les parkings, les taxes, les commerçants savent très bien de quoi je parle, des taxes, il y en a plein. Et donc, l'idée, c'est d'essayer de toutes les mettre dans un précompte différencié, de les intégrer. Donc, ça, c'est de la simplification administrative. Mais c'est vrai que ça pourrait aussi permettre aux communes de revoir un peu les règles et donc de changer dans un quartier, comme on le disait, de mettre peut-être dans un quartier des impôts plus bas, parce qu'on pense toujours plus haut. Mais ce qui est surtout imaginé, c'est vous prenez le quartier près de la gare du Midi où il y a plein de travaux maintenant, on a ouvert le sol pour pouvoir faire passer le métro qu'on attend. Et ben, là, pour les commerçants, c'est très compliqué. On pourrait imaginer se dire que pendant toute la période des travaux, ils ne payent pas le précompte immobilier.
Oui, ils payent en tout cas un impôt un peu plus bas. Concrètement, ça va marcher comment? Imaginons que je suis une commune et que je décide d'instaurer ce précompte différencié, qu'est-ce que je dois faire?
En fait, théoriquement, elle pourrait même déjà le décider, mais dans quel cadre? Aucun, puisqu'il n'existe pas. D'où l'ordonnance qui a été, donc la loi qui a été décidée par les ministres, enfin qui est proposée par les ministres dont on parle ici. Concrètement, ce sera assez simple. La commune devra décider. Donc, par exemple, moi, je ne veux plus taxer les boulangers, les bouchers qui vont s'installer sur mon territoire pendant les deux prochaines années pour les motiver à venir chez moi et pas ailleurs parce que je manque de boucherie et de boulangerie. Et donc, je dois le voter au conseil communal. Si je suis bourgmestre, je fais la proposition. Si ça passe, on envoie ça à l'administration régionale qui va voir si en fait elle a les capacités de réellement vérifier qu'elle a toutes les bonnes données pour pouvoir prélever cette taxe différenciée, ce qui s'annonce déjà très compliqué.
Le principe existe déjà en Flandre, on peut en tirer un bilan, ça a marché de ce côté-là de la frontière linguistique?
Donc en Flandre, on peut le faire depuis 2018-2019 et seulement 10 communes se sont renseignées pour le faire, comme je vous disais, puisqu'il faut passer par l'administration après, et 8 ont mis en place un précompte immobilier différencié sur plus de 250 communes de mémoire. C'est donc pas un énorme carton, mais celles qui l'ont fait ont utilisé les exemples que je citais, donc notamment soutenir les boulangers qui pourraient vouloir venir s'installer. On a aussi une commune flamande qui, par exemple, a supprimé la taxe sur les motocycles, donc c'est-à-dire ceux qui détiennent un scooter, etc., pour la remplacer par une autre. Enfin voilà, ils font des petits vases communicants, ce qui peut toujours être intéressant.
Merci Maxime.
Merci.
À propos, c'est fini pour aujourd'hui, mais on revient lundi matin. Merci de nous avoir écoutés. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à parler de notre podcast et à partager nos épisodes autour de vous. À lundi.